On vous présente aujourd'hui le portrait de famille de Jean-François Martin. Il est professeur en technique d'éducation spécialisée au Cégep du Vieux-Montréal, auteur, conférencier, président du CA, du regroupement pour la trisomie 21. Un type, vous le devinez, qui est assez engagé et surtout un papa impliqué parce que Jean-François, il en a 4 enfants, un grand garçon, 3 filles âgées entre 15 et 27 ans. Comme à l'habitude, on s'est inspiré de son vécu, de sa réalité familiale pour bâtir l'émission. Première petite confidence en ouverture. Moi, Jean-François, j'osais pas vous inviter à Portrait de famille. Je me disais, ce gars-là est hyper occupé. Il a déjà une belle couverture médiatique avec tous ses projets. Et c'est Geneviève Labrec, directrice générale du regroupement Trisomie 21.
Elle aussi est partout. Hein?
Elle est partout et elle m'a glissé à l'oreille. Jean-François, il aimerait ça être invité à Portrait de famille. Alors, bien sûr, je ne me suis pas fait prier et vous êtes là. Comme quoi, peut-être que c'est important d'aller au-delà des apparences, au-delà des idées préconçues. Et ça, Jean-François, vous êtes habitué de faire ça parce que votre famille, on pourrait dire qu'elle est assez atypique.
Oui, on ne passait pas inaperçu lorsque les enfants étaient plus jeunes parce que là, c'est sûr qu'ils ne sont pas toujours avec nous lorsqu'on on sort. Mais je me souviens souvent, lorsqu'on arrivait dans les restaurants, entre autres, on était déjà une famille de 6. Alors déjà, en partant, c'est plutôt rare à notre époque. Et j'ai Carl, qui est le plus âgé, qui a une trisomie 21, qui se voit très bien, donc en le regardant dans le visage, qu'il y a une trisomie 21. Et après ça, j'ai la plus jeune, Maëla, qui a été adoptée d'Haïti. Donc, on arrivait, nous autres, une famille de 6, et on avait ce grand monsieur-là avec sa trisomie 21 et l'autre petite qui était noire. Alors, c'était comme moi, okay, d'où ils sortent, eux autres? Et on avait presque toujours un commentaire d'une personne qui venait nous dire que c'était donc beau ce que nous faisons.
Oui, ce qui peut être un petit peu agaçant. Et, et on va y revenir, bien sûr, Jean-François. Avant, je veux que vous nous présentiez votre photo, votre portrait de famille. Ça circule déjà sur nos médias sociaux. Ouais. Et c'est important parce que, bon, il y a cette famille atypique, vous l'avez bien présentée, mais qui est issue d'un couple mixte.
Ah bien oui!
Déjà, la différence part de là. Et cette photo que vous avez choisie, elle présente vos 4 enfants dans un lieu important pour vous.
Qui sont les Açores. Oui. Alors, c'est les îles d'où ma femme est originaire. Elle vient de l'île de Saint-Miguel. Et effectivement, c'est un arbre qu'on retrouve dans un jardin sur l'île de Saint-Miguel, à Punta Delgada. Et je trouvais ça intéressant parce que justement, c'est l'espace, donc c'est les Açores. C'est un endroit pour moi qui est comme ma deuxième maison aussi là-bas. Et l'arbre, qui est l'arbre de la vie d'une certaine façon. Et j'ai mes 4 enfants qui se retrouvent parmi cet arbre. Et nous avons donc Rebecca, qui est la plus haute juchée, au-dessus de Carl. Et vous avez donc à votre gauche Maëla et à la droite Gabriella.
Et
donc,
Carl qui est au milieu.
Et Carl qui est au milieu de ses 3 sœurs, effectivement, qui essaient de s'en sortir, le pauvre. C'est surtout ça le problème.
Jean-François, je veux revenir aux commentaires parfois un peu agaçants ou disons maladroits que vous pouviez entendre, surtout quand les enfants étaient petits. Et cette phrase qui m'a beaucoup marquée parce que vous êtes derrière le documentaire Trisomie 21, le défi Pérou, sorti en 2009. Une phrase qui m'a marquée, et pourtant ça fait 7-8 ans que j'ai entendu ça, où vous dites à l'intérieur du film, parfois on me disait « Hey, une chance que c'est tombé sur toi » ou « Une chance que c'est tombé sur vous » parce que moi, j'aurais pas su quoi faire. Et pourtant, et ça vous me l'avez dit, lorsque Carl est né, il y a 27 ans, la trisomie 21, vous connaissiez pas ça plus que personne.
Absolument pas. C'était totalement nouveau pour moi et ma conjointe. J'avais même pas d'idée en tête parce que j'en avais jamais côtoyé, mais comme tout le monde, je savais très bien qu'il existait ces personnes-là. Mais vraiment, là, je partais à zéro. Là. Ma conjointe, je sais qu'elle avait un voisin qui avait une trisomie 21, qu'elle s'est souvenue par la suite, mais sur le moment, effectivement, ça partait à zéro. Et oui, ça me fait toujours réagir ce commentaire-là que... Hey, il a bien tombé, Carl, d'être arrivé chez vous parce que vraiment, vous êtes capable, vous. C'est comme dire qu'il y a des gens qui ne sont pas capables puis d'autres qui sont capables. OK, c'est fort possible, mais il faut vivre l'expérience. C'est pas en partant de dire, oui, est-ce que tu serais capable d'avoir un enfant qui est différent? Mais la majorité des gens vont avancer en disant, ben non, pas du tout, je serais jamais capable. Ben ça se développe, ça. Ça se développe. C'est pas arrivé comme ça chez nous non plus en disant, ben oui, aucun problème, on va être capable de le prendre en charge. Pas du tout. On a fallu qu'on passe à travers des étapes. Il a fallu qu'on se retrouve aussi en tant que couple et qu'on envisage qu'est-ce qu'on veut faire avec lui, qu'est-ce qu'on veut faire pour nous aussi comme couple, comme famille. C'est quoi? On s'en va vers où, là? Et ça ne vient pas naturellement. Ouais. C'est du travail, ça.
C'est d'accepter de s'adapter, c'est d'accepter cette transformation qui est familiale, professionnelle, du couple aussi.
Ouais.
Et ça a été difficile à la naissance de Carl. C'est votre belle famille qui vous a réconcilié un petit peu.
Beaucoup, 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 parce que c'était des gens beaucoup plus terre-à-terre, plus concrets. Nous autres, on est, moi et ma conjointe, plus intellectuels. Alors, c'est sûr que pendant la grossesse, hein, c'était la bibliothèque avec tous les livres, c'était l'université où il va aller. Alors, c'est sûr que quand Carl est arrivé, puis on nous a dit tout simplement, parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations, que le problème était dans la tête, que c'était une déficience, ouf, on s'est dit, ça y est, c'est fini. Il n'y aura plus rien, plus aucun rêve, plus rien qui va tenir. Et ma belle famille, étant plus dans le concret, ben, quand ils ont regardé Carl, ils ont dit, c'est quoi le problème? Il y a sa tête, il y a ses bras, il y a ses jambes, il va travailler.
Oui.
Oh, OK, attends une minute, j'avais pas vu ça comme ça. T'as tout à fait raison. Ça nous a ramené à d'autres valeurs ou à d'autres façons, à une autre façon de voir la réalité qui nous tombait dessus.
Ouais.
Et ça, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et par la suite, ils ont toujours été présents. Et ça, je pense que dans une famille, ça ne peut pas s'arrêter qu'à la mère et au père. Il faut que ça soit élargi autour lorsqu'il y a la présence d'un enfant qui est différent parce qu'on a tellement besoin d'aide, on a tellement besoin de... Je veux souffler un peu. Et on a toujours eu quelqu'un, nous autres. Des fois, c'était des week-ends complets, là. Puis on disait, quelqu'un qui prendrait Carl, tu avais des mains qui se levaient, pas de problème, on va le prendre, Carl. Et ça nous permettait de nous recentrer sur nous autres, puis de repartir, hein. On dit de recharger les batteries, mais de repartir en disant, bon, OK, on est prêt.
Oui. L'arrivée, la naissance de Carl n'a pas freiné votre envie à vous, à Anna Maria, d'avoir d'autres enfants.
Oh oui, au départ, oui.
Au départ,
oh, oui.
Oui.
Au départ, oui. Quand Carl est né, c'était comme... C'est parce que le portrait qu'on nous faisait à l'hôpital, c'était vraiment pauvre de vous, là. Vous ne savez pas ce qui vous attend, hein? Ça va être affreux. Fait que là, on s'est dit, écoute, on arrête ça là. On va s'occuper de lui. Puis moi, je m'ai dit dans ma tête, tout le monde me dit que ça va être un légume. Ça va être un légume heureux. Et nous autres, on va être heureux.
Ouais.
Et on est parti avec ça, mais 6 mois après, lorsqu'on voyait Carl, on se disait, voyons, c'est où le problème avec cet enfant-là? Là? Ça fonctionne relativement bien. Là. Pourquoi on s'empêcherait d'avoir d'autres enfants? Et là, on a reparti ce rêve-là. Fait que ça a duré un bon 6 mois là, qu'on s'est dit, c'est fini, merci. Là.
Puis après
ça,
on se relance en voiture.
Ouais. Allez, c'est reparti.
Ce qu'il y a de particulier chez vous, Jean-François, c'est qu'avec votre conjointe, vous avez fait le choix de rester à la maison pour élever les 4 enfants pendant que l'épouse allait travailler.
Elle me faisait vivre.
Voilà. Ce qui est un peu différent, ce qui a amené, surtout pour, si on recule d'il y a 20 ans, et ce qui vous a permis d'avoir une présence et un impact différent dans le développement de vos enfants, beaucoup dans le développement social,
exact.
Je pense. Hein?
Exact. Moi, je suis vraiment hyper content de cette décision-là. Et ça, c'est avant que Carl soit né. Hein. C'est pendant la grossesse qu'on s'était dit, je pense que moi, j'avais pas de formation universitaire. J'avais qu'un secondaire 5 complété, donc pas de formation universitaire. Fait qu'on s'est dit, peut-être que dans le domaine où j'aimerais aller, il va falloir que j'aille chercher donc des formations. Alors, on s'est dit, elle va travailler et moi, je vais aller étudier à ce moment-là de soir et je pourrai m'occuper de l'enfant pendant le jour. Mmh. Alors, quand Carl est arrivé, c'était encore plus significatif le fait de rester à la maison. Et ça m'a permis un peu, effectivement, d'envahir cette sphère sociale que souvent, c'est la mère qui va prendre cet espace-là. Bien là, c'est moi qui prenais l'espace de la sphère sociale. Et ça a engendré toutes sortes de situations. Premièrement, ma belle-mère, elle comprenait strictement rien. Qu'est-ce qui se passait?
La grand-mère portugaise.
Là, elle se disait, attends une minute, là, tu vas le laisser seul avec un bébé. Ce monsieur-là, est-ce qu'il sait comment mettre une couche premièrement? Ça a toujours engendré des situations comme ça, où quand ils appelaient à la maison les personnes qui travaillaient auprès de Carl, c'était toujours, est-ce que je peux parler à Madame Medeiros? Non, elle n'est pas là, mais moi, je suis là, je suis le père. Bonjour, est-ce que vous pourriez laisser un message à Mme Medeiros? Attends une minute, là, je suis là, moi, peux-tu me parler?
Oui.
Alors, ça a engendré toutes sortes de situations comme ça, mais ça m'a permis de vivre autre chose.
Oui. Deuxième partie de cette émission, toujours en compagnie de Jean-François Martin. Ça va toujours bien?
Absolument.
Ce qui s'en vient en deuxième partie, ça risque d'être assez intéressant
aussi.
Oui,
ça va être très intéressant.
Sophie Tétrault-Martel, qui nous parle du projet Andy Réseau. Vous connaissez un peu ça?
Je connais vaguement, mais j'ai hâte d'en entendre parler davantage, effectivement, surtout que je vois placer des stagiaires à cet endroit-là.
Voilà! Et également Mathieu Paiement, lui qui travaille du côté de Blim Télé, on parle de documentaires.
Ah, oui.
comme outil de sensibilisation, oui. comme outil de communication aussi. Mais avant, discussion juste vous et moi, Jean-François, oui. je veux parler des retombées positives d'avoir un enfant différent. Et il y en a, entre autres, tout ce qui se passe du volet de la famille, de la fratrie, ça modifie vos enfants quelque part oui. vers peut-être plus d'ouverture, plus de compassion aussi.
Je pense que lorsqu'on se laisse toucher justement par cette personne qu'on dit différente, ça nous amène ailleurs. Et moi, Carl m'a amené à voir la vie différemment, avec plus de... un peu plus de patience, avec aussi qu'on réalise pas tout, c'est correct aussi, et de profiter du quotidien. Ce que Carl fait quand même souvent, malgré ces derniers temps, il est toujours en train de parler de ce qui va arriver demain, mais moi personnellement, je trouve qu'ils ont une belle philosophie de vie. Ils ont une belle façon de voir les choses. Il s'en fait pas avec beaucoup de choses. Habituellement, il est très franc. Donc, ça veut dire que si t'es belle ce matin, il va te le dire ouvertement. Mais attention, si tes cheveux sont pas beaux ce matin, tu vas le savoir aussi que tes cheveux sont pas beaux.
Et si je me suis blessée il y a 6 mois, il va s'en rappeler.
Carl va s'en souvenir. Naturellement, c'est pas tout le monde qui sont comme ça. Chacun a leur particularité. Mais Carl, effectivement, s'il vient ici puis il voit que t'as un plâtre ou que t'as un problème avec un de tes membres, ben, il va s'en souvenir par la suite puis il va te le demander. Puis des fois, il te demande, tu vas dire, mon bras, ben, correct, mon bras. « Ah, oh, mon bras, mon Dieu, toi, pour toi, c'est fini, là, c'est oublié. » Mais lui, c'est la première fois qu'il te revoit depuis ce temps-là et il va ramener ça. Donc, il y a quand même cette sensibilité-là. Il est capable de le voir, hein, des fois, là, quand je suis fâché ou ça va pas bien entre moi et ma femme. Là, il me regarde et il dit « Ça va pas, hein? T'es fâché, hein? » Puis dans le fond, tu dis « Non, non, tout va bien, là. » Mais il l'a saisi là, très, très bien. Fait que ça c'est un aspect qui est intéressant. Et Carl a aussi une touche humoristique. Des fois sans le vouloir, qui nous amène dans des endroits de dire hey, là, franchement, là, t'as été loin. Hein. Il y a ses amis imaginaires, parfois, qui viennent prendre des pauses chez nous et il nous sort des trucs qui sont tellement rigolos. Fait que ça nous amène ailleurs et ça l'a amené aussi une vision que je pense que mes enfants ont été teintés aussi de cela. C'est sûr que la façon que les parents réagissent justement à la présence d'un enfant qui est différent, bien, c'est sûr que les enfants vont se coller un peu à cette réaction-là. Et ce que je trouve beau, moi, c'est que mes enfants, ben, ils ont une belle ouverture à l'autre, belle ouverture à la différence. Bon, c'est pas rien que la plus vieille, Rebecca, est aussi dans le domaine. Elle travaille justement avec des jeunes qui ont différentes difficultés. L'autre qui va aller en enseignement. Fait qu'on voit vraiment que ça baigne beaucoup là-dedans. Et je pense, puis c'est pas que la présence de Carl, mais c'est sûr que Carl a apporté quelque chose de différent dans cette dynamique-là.
Et ça a été important pour vous, Jean-François, avec les trois filles, avec Carl, que tout le monde ait sa place et que Carl ne soit jamais exclu.
Tout à fait. Et ça, là, c'est une des premières choses que je mentionne aux parents. Faites bien attention à ça, de garder une équité. Parce que c'est sûr que, puis surtout si l'enfant est malade, donc des besoins médicaux importants, c'est sûr que notre temps, on investit beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'on a d'autres à côté. Et eux aussi ont le droit d'avoir leur espace. Donc, on essayait toujours, nous autres, de garder cet équilibre-là. Alors, si j'allais à l'hôpital avec Carl, bien, je prenais du temps par la suite avec Rebecca. Alors, pour lui montrer que je ne suis pas juste avec Carl, je suis aussi avec toi, et pas juste toi puis Carl, mais toi seulement aussi. Fait que toujours garder cet équilibre qui est toujours bien difficile à avoir, mais qui permet justement que les autres ne le prennent pas en aversion, puis dire « Ouais, ben moi, j'ai jamais eu de place dans ma famille, là. C'est toujours Carl, toujours Carl, toujours Carl. » C'est pas ça qu'on voulait, nous autres. On voulait plutôt que chacun ait sa place, comme il est capable de prendre aussi. Je veux dire, Carl, il prend sa place qu'il peut, puis on lui demande des choses qu'il est en mesure de faire. Puis toi, ben c'est autre chose. Mais chacun a à participer dans cette vie de famille-là. Là.
Faire des choses dont il est capable, qu'il est capable de faire, mais qu'il soit heureux aussi. Ça a été
l'objectif. Ça, c'est essentiel. Oui, c'est essentiel parce que je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est un petit bonhomme hyper heureux, là. Il se
un
réveille
grand
le matin.
Bonhomme,
ouais, ben c'est vrai, j'aurais pas dû dire un petit parce qu'il est de ma grandeur puis il est rendu à 27 ans, tu as tout à fait raison. Il se réveille tous les matins, il est heureux, lui. Il est heureux, il va super bien. Lui, du temps qu'il a son Canadien de Montréal, tout va bien. Ouais. Je dis, ouais, t'as des grands objectifs dans la vie, mon gars, là. Faudrait peut-être qu'il se trouve autre chose, là. Mais il prend des petites choses, puis il en profite. Il en profite. Et puis, moi, des côtoyer, ben, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup, puis dans différentes activités que j'ai créées pour eux ou que je participe. Puis c'est toujours la même chose. C'est une bouffée de fraîcheur, là, ces gens-là. C'est incroyable, là.
Oui. L'arrivée d'un enfant différent, et on en parlait en première partie, Jean-François, ça bouleverse, ça modifie la vie personnelle, la vie de couple, la vie familiale. Dans votre cas, la vie sociale aussi, ça vous a amené à vous engager dans différents organismes. Il y a eu cette envie de faire des documentaires. Ouais. C'est arrivé en 2008, je pense.
C'est arrivé
désir-là.
Même un petit peu avant 2008, parce que l'idée a germé en 2006 dans ma tête de dire... Je commençais à être un petit peu fatigué de voir qu'à chaque fois que Carl était devant un obstacle, c'était très souvent parce que les gens ne le connaissaient pas et lui mettaient eux-mêmes des obstacles qui n'auraient pas dû être. Fait que là, je me suis dit, comment je peux changer cette vision-là des choses? C'est là où j'ai eu l'idée d'un projet. Puis moi, étant donné que j'aime beaucoup les sports, ben je me suis dit, tiens, aller sur une montagne, ça pourrait être intéressant. Moi, j'adore faire ça. Je sais que Carl était en mesure de le faire parce qu'il me suivait. Un matin, je me suis réveillé puis j'ai vu une montagne. Là, j'ai dit, voilà, j'amène des personnes qui ont une trisomie 21 avec moi sur une montagne. Alors moi, j'étais hyper content de dire ça à ma femme qui, elle, m'a dit tout simplement, mais t'es un crétin, ça ne fonctionnera mais jamais, cette affaire-là. J'ai dit, bon, ça part bien, là, quand même ta femme ne croit pas que c'est possible. Et là, je me suis rendu compte des obstacles parce que j'ai eu à faire face à plusieurs obstacles avant que le projet soit concrétisé parce que personne n'y croyait. Tout le monde me disait, ben non, c'est impossible, là, c'est pas possible de faire ça. Mais tu vois, j'y ai pensé et j'ai toujours eu l'idée de dire, quand tu crois en quelque chose, tu vas attirer des gens qui vont finir par y croire. Et puis après ça, ça a construit une équipe auto.
Et pourtant, en 2009, est venu Trisomie 21, ouais. Le défi Pérou,
exact.
L'ascension du Machu Picchu avec 6 jeunes vivant avec une Trisomie 21,
exact.
Vos étudiants aussi.
Ouais.
Et c'était une façon aussi de dire, bon, bien sûr, il y a le côté pédagogique là, à vos étudiants, mais à la face du monde, là, c'est-à-dire au grand public, oui, il y a des obstacles, mais si on a pu vivre ça, on peut vivre n'importe quoi.
Exactement, de dire... Tout le monde a des obstacles dans la vie, tout le monde. Mais souvent, on a des outils pour nous aider. Puis souvent, il y a des gens qui vont y croire. Mais des personnes qui ont une trisomie 21, malheureusement, ils ont souvent des gros obstacles et il y a bien des gens qui n'y croient pas ce qu'ils sont en mesure de faire. Moi, je voulais démontrer, regardez ce qu'ils sont capables de faire si on les aide. C'est sûr qu'ils ont besoin d'aide, mais ils sont capables de réaliser des choses. Fait que si moi, je suis capable de les amener là, imagine-toi dans le quotidien ce que tu es capable de leur faire faire. Changeons notre perspective, changeons notre point de vue. Et en plus, on a été dans un petit village où on a apporté de l'aide. Aussi, dans un village, on a construit des briques. Donc, toutes des petites choses comme ça pour démontrer, regarde, sont capables physiquement, mais sont capables aussi de laisser quelque chose derrière eux. Et c'est ça, moi, l'image que je voulais changer. Et ça a eu un impact.
Ah oui, moi, je m'en rappelle encore.
Ah, incroyable, là. Incroyable. Ouais. Moi, quand je l'ai vu, le documentaire terminé, j'ai dit « Ah, on a quelque chose de bon. » D'après moi, un mois ou deux, on devrait faire qu'une couple de conférences. Écoute, l'année dernière, j'étais en France pour présenter. Encore 8 ans qu'on roule avec ce film-là. Et ça change les perspectives.
Et pourtant, vous n'étiez pas rassasié.
Jamais rassasié, moi.
Jamais. Et cette envie de retourner à la montagne, de retourner avec des jeunes vivant des limitations, avec les caravaniers de l'impossible.
Exact.
On en parle à l'instant avec Mathieu Paiement, qui travaille du côté de Blim Télé.